soir à minuit comme une radio lointaine captée en haut de cours. Je suis seul dans mon bureau, c'est la seule lumière du village. Je suis seul dans mon bureau, c'est la seule, je suis seul dans mon bureau. C'est la seule, et vous me revenez par intermittence comme une radio lointaine captée en haut de cours. Un soir à radio lointaine captée en haut de cours.
Et il est midi 30 sur Divergence FM et c'est l'heure, comme tous les vendredis, de Vendredi Théâtre. Salut Florent.
Bonjour Simon, et oui, Vendredi Théâtre, comme tous les vendredis de 12h30 à 13h30, nous avons trois plateaux prévus aujourd'hui. Je serai un petit peu seul puisque la plupart de l'équipe est victime de virus pervers et pernicieux, mais on va faire l'émission quand même. Donc Vendredi Théâtre, c'est sur Divergence FM, le 93.9, et c'est maintenant. Et oui, vous avez reconnu le générique de Vendredi Théâtre. Il s'agit bien évidemment d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Vendredi Théâtre aujourd'hui, donc je suis tout seul dans le des chroniqueurs encore survivants de ces virus qui s'abattent sur l'équipe. Nous allons parler pour commencer d'un texte qui s'appelle Jeunesse sans Dieu. J'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Nicolas Pichot. Bonjour.
Bonjour.
Alors Jeunesse sans Dieu, c'est d'après un texte de Eudon von Horvath. Est-ce que je l'ai bien prononcé ?
Pas mal. Eudon von Horvath.
Von Horvath, je savais, je ne suis pas germaniste. Alors, la compagnie de l'Astrolabe, et c'est dans un lieu que je ne connais pas encore. Il s'agit, si je ne me trompe, de la salle de répétition de la compagnie que vous ouvrez au public.
C'est ça. C'est une salle qu'on a récupérée il y a 2 ans. Une ancienne imprimerie, d'où le nom, l'imprimerie, qui était auparavant utilisée par des plasticiens. Et donc, depuis 2 ans, on en a fait notre lieu de travail, de création, de répétition, mais aussi un lieu de... On a accueilli certaines compagnies qui sont venues faire des résidences chez nous, comme la compagnie Moebius.
Ah oui, on les connaît bien, Moebius.
Voilà, les Grisettes sont venues chez nous, la compagnie Alcibiade de Fred Bory, des gens sont venus travailler, et il a commencé à travailler son déjeuner chez Wittgenstein chez nous. Donc, il y a un peu cette vocation, un petit peu, d'en faire un lieu de travail. Et petit à petit, on l'a équipé également. On a construit un plancher, on a équipé de certains pendrillons et de certains projos pour en faire un petit lieu de théâtre. Et c'est pour l'occasion que je vais donc présenter ce spectacle chez nous, en première, en avant-première, entre guillemets.
Alors moi, j'ai assisté un petit peu à la genèse du spectacle, puisque ça a commencé par une lecture qui a eu lieu, auquel j'ai assisté, qui était en 2008 au théâtre Jean Villard. Donc c'est un travail quand même de longue haleine et qui te tient à cœur depuis quelques années.
Alors complètement. En 2008, j'ai proposé à Luc Bremer cette lecture de ce texte qui m'est cher, en me disant, tiens, on va faire une lecture, puis on va voir sur quoi ça peut déboucher. Et c'est l'équipe du service éducatif d'ailleurs du théâtre qui a dit c'est marrant ton texte, je le vois bien dans les classes de lycée. Et du coup on est parti à faire une forme, à travailler sur une forme pour le lycée, et dont on s'est inscrit dans le cadre de Lycée Un Tour qui permet aux artistes de venir jouer dans les classes. Et donc en 2009, 2010, 2011, j'ai tourné une quarantaine de fois dans des classes de lycée de l'Hérault, ce spectacle, avec une version courte, entre guillemets, où je jouais 45 minutes devant les élèves, puis avec un débat derrière. Et suite à cette expérience avec le metteur en scène avec qui j'ai travaillé, qui n'est pas quelqu'un de Montpellier, je suis retourné aux sources puisque j'ai travaillé avec mon ancien professeur, mon ancien maître, je ne sais pas comment on dit, avec qui j'avais travaillé il y a maintenant pas loin de 20 ans. Bon, j'exagère, 15 ans peut-être. Et je suis retourné travailler avec lui à Chartres, cette version pour les lycées.
Et comment s'appelle-t-il ?
Emmanuel Rey,
Emmanuel
pour
Rey.
Le citer, qui est un petit théâtre, une compagnie sur Chartres, un théâtre également. Et on s'est dit, quand même, parce qu'on avait décidé de faire une adaptation de la première partie, des 100 premières pages.
Parce qu'en fait, c'est un roman.
Oui,
au départ,
oui,
c'est
oui,
un roman.
Oui, oui.
Ce n'est pas un texte écrit pour le théâtre, c'est un texte qui peut être théâtralisé, mais au départ, c'est un roman.
Exactement. Il est écrit à la première personne, c'est un peu le personnage principal, bon, peut-être on y reviendra, ce professeur qui va parler un petit peu, enfin qui parle de, enfin en fait comment dire, il y a ses pensées, c'est son monologue intérieur, et puis il y a des moments de dialogue et des moments de narration, et je sentais que ça pouvait être une forme pour le théâtre, en incarnant avant tout le professeur.
On va peut-être résumer un petit peu l'histoire. Je vais essayer de me lancer et tu me diras si je me plante. Alors, il s'agit donc, dans l'Allemagne de l'entre-deux-guerres, d'un professeur d'histoire-géographie qui assiste complètement impuissant à la montée du nazisme dans l'esprit de ses élèves, une classe d'adolescents. Et c'est par une phrase dans une des copies qu'il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et la phrase, c'est, si je ne me trompe pas dans la copie, « Tous les nègres sont fourbes, lâches et fainéants ». C'est un petit peu le résumé ?
Oui, c'est le point de départ. C'est le point de départ du spectacle, c'est-à-dire qu'on comprend assez vite que ce professeur n'est pas très à l'aise dans cette société qui l'entoure. Hein. Il faut rappeler qu'Horvat, il écrit cette pièce en 37. Donc il est vraiment dans... On va retrouver les ingrédients dans ce roman de ce qui fait le régime nazi de l'époque, la radio, la propagande, et justement le courant dominant. Ce dont il va s'apercevoir, c'est que ses élèves, et surtout un élève, suit complètement la pensée du moment. Et en fait, l'histoire, c'est qu'il va s'opposer. Du moins, il va dire... à l'un de ses élèves, comme quoi les nègres sont aussi des hommes, etc. Et là, il va se retrouver face au père de l'élève, puis au directeur, qui va lui dire en gros qu'il ne faut pas faire de vagues, et puis face à tous ses élèves qui vont vouloir signer une pétition pour qu'il n'enseigne plus, car selon eux, il ne véhicule pas les bonnes valeurs.
Et le roman se passe en quelle année ?
Dans les années 30, c'est jamais cité.
Oui, c'est ça.
Horvat ne cite jamais Hitler, ne cite jamais le nazisme, mais on sent bien qu'il décrit la société dans laquelle il vit. Et à partir de là, on va avoir un peu le cheminement intérieur et aussi du coup les actes qui vont en découler de ce professeur, qui, on s'en aperçoit, n'a pas ces valeurs-là, mais... À vrai dire, on va découvrir aussi une certaine lâcheté de sa part. Et moi, ce qui m'intéressait quand j'ai lu ce roman, c'est aussi comment ça peut nous renvoyer aujourd'hui, nous aussi, à moi aussi, quand j'ai lu le roman, vraiment, ça m'a renvoyé à moi, quelles sont les choses que... Parce que des fois, c'est un peu compliqué, comment on s'arrange avec la vie, comment on a des petites lâchetés, et ça pose la question de la résistance aussi, au courant dominant, à la pensée dominante.
Et en fait, devant ces élèves qui sont complètement privés d'idéaux et de repères et qui ne peuvent pas remettre en cause un dogme qui leur est imposé, et ça rappelle quand même un petit peu aujourd'hui.
Oui, complètement. C'est pour ça quand on l'a proposé dans les lycées, je fais toujours un débat derrière et on essaye d'évoquer ces questions-là avec les élèves. Quel est leur esprit critique aussi, ou même tout simplement la pensée dominante. Alors elle va être peut-être sur, sur les marques, sur une façon d'être, une façon de s'habiller. Et on essaye d'évoquer ces questions-là, comment on peut arriver à vivre aussi en suivant sa propre pensée, et puis aussi le développement de l'esprit critique, parce que on parle vraiment du média dans ce roman, et aujourd'hui quel esprit critique on a par rapport évidemment à la télévision, mais aussi Internet, comment on peut avoir du recul.
À l'époque, c'était la radio.
Et à l'époque, c'était la radio.
Ah oui, oui, oui. L'outil de propagande de Goebbels, c'était la radio.
Complètement. Et d'ailleurs, si je ne me trompe, il donnait des radios dans les foyers pour que les gens écoutent la radio. Et donc, on l'évoque tout à fait dans le spectacle. Oui.
Alors, Eden von Horvath,
c'est ça.
On peut parler un petit peu de cet auteur ?
Oui, il est d'origine austro-hongroise. Bon, si on se rappelle l'histoire, donc l'Empire d'Autriche-Hongrie. Et donc, il va d'abord écrire à Vienne, puis très vite, il va se retrouver en Allemagne. Il est surtout connu pour ses pièces de théâtre. On connaît Casimir et Caroline.
Ah oui, c'est vrai que c'est lui.
C'est lui,
oui, oui.
Dont dans la région, je crois que Jean-Marc Bourg a mis en scène. On a Jacques Nichet qui l'avait mis en scène. Enfin bon, beaucoup de metteurs en scène se sont attaqués à cette pièce-là. Après, il y a d'autres pièces moins connues, Foi, Amour, Espérance. Ça, ce sont les premières pièces qu'il écrit dans les années 30, où il parle déjà d'un mal-être dans la société, de la montée du chômage, de la... Voilà.
La crise économique.
De la crise économique. Et ensuite, il va donc terminer avec ses deux romans, Jeunesse sans Dieu et Un fils de notre temps en 38, qu'il va évidemment éditer, pas en Allemagne, hein, parce qu'il s'est exilé. Et où là, carrément, dans ces deux romans-là, il évoque directement, c'est ce que je disais, le régime dans lequel il vit. Un fils de notre temps est un autre roman sur un soldat, un jeune soldat qui va aller, on imagine, ça peut être les Sudètes, et comment il va aller, la fleur au fusil, faire la guerre pour la nation, qu'il l'a sauvé du chômage, et voilà.
Le roman est écrit en 37, il a été publié en 38, si je ne me trompe, et il est mort en 38 lui aussi.
Il est mort
d'une façon assez particulière. Il est mort à Paris.
Eudon von Horváth, il est à Paris parce que donc il s'est exilé de l'Allemagne et il est déjà en train de négocier un contrat avec Hollywood, avec Robert Siodmak, si je ne me trompe, le 2 juin, je crois, pour faire une adaptation de Jeunesse sans Dieu au cinéma. Et je crois que le lendemain ou deux jours après, il y a une tempête incroyable à Paris. Et il y a deux morts sur les Champs-Élysées, dont Eudon von Horváth qui se prend un arbre sur la tête, enfin une grosse branche sur la tête. Et il meurt comme ça à 37 ans, en 1938. Il va pas voir toutes les horreurs
qu'il annonçait. Est-ce que ce serait possible d'avoir un petit extrait pour nous donner une idée du spectacle?
Alors je vais essayer pour situer justement, ce serait un peu, c'est au début du spectacle, et je vais reprendre justement la phrase dont vous avez parlé tout à l'heure, et puis on va voir un petit peu comment, ce dont on a parlé tout à l'heure, comment ça se présente, comment ça se joue. Mais qu'est-ce qui m'écrit là, haine ? Tous les nègres sont fourbes, lâches et fainéants. Non mais là, c'en est vraiment trop. Et je m'apprête à écrire dans la marge, à l'encre rouge, généralisation absurde quand je me retiens. N'ai-je donc pas entendu récemment cette phrase sur les nègres ? Mais où donc ? Ah oui, au restaurant, clamé par la radio et ça m'avait presque coupé l'appétit. Je laisse donc la phrase en l'état, car ce qui se dit à la radio, un professeur n'a pas le droit de le rayer dans un cahier. Un peu plus tard. Je suis le père d'Otto N. Monsieur le professeur m'a venu ici à pour cause une affaire excessivement grave qui pourrait bien avoir de lourdes conséquences. Mon fils Otto m'a rapporté hier après-midi avec la plus grande indignation que vous auriez, monsieur le professeur, laissé échapper une remarque absolument insensée. Hier matin, au cours de votre leçon de géographie, les élèves avaient rédigé une composition sur le problème colonial et c'est à ce propos que vous avez dit à mon fils Otto « Les nègres aussi sont des hommes ». Vous comprenez ce que je veux dire ? Vous ne percevez donc pas avec toute la clarté nécessaire ce qu'un tel propos relatif aux nègres signifie ? C'est du sabotage contre la patrie. Je ne connais que trop bien les voies détournées, les menées perfides, par lesquelles vous tentez à d'inoculer d'innocentes âmes d'enfants le poison de votre humanitarisme fumeux. Vous aurez de mes nouvelles ? Deux jours plus tard, j'avais de ces nouvelles. Le directeur m'avait convoqué. Écoutez-moi, il est arrivé hier une lettre de l'administration. Un certain N, boulanger de son état, a déposé plainte contre vous pour des propos que vous auriez tenus. Bien, je connais cela et c'est comment de telles plaintes prennent naissance. Non, je ne vous demande pas d'explication. Cependant, cher collègue, il est de mon devoir d'attirer votre attention sur la nécessité que de tels incidents ne se renouvellent pas. Vous oubliez la circulaire confidentielle 5679-U33 ? Nous devons préserver la jeunesse de tout ce qui pourrait, d'une quelconque manière, porter préjudice à ses capacités militaires. Autrement dit, nous devons la préparer moralement à la guerre. Point final.
c'est un bel extrait qui nous donne un petit peu la teneur du spectacle.
Un petit peu l'ambiance, et puis je ne sais pas si là à l'antenne on l'entend, parce qu'évidemment le visuel joue aussi, mais où je vais en effet passer d'un personnage à l'autre. Mmh. Voilà, par une simple petite inflexion de voix, une tenue du corps différente. Je vais donc jouer le prof, le père, le directeur, puis les élèves un peu plus tard.
On va rappeler que le spectacle s'appelle Jeunesse sans Dieu. C'est donc le lieu, c'est où ?
L'imprimerie, qui se trouve 22 rue Général Lafon. C'est une rue qui est parallèle à la rue du Grand Saint-Jean, qui nous mène à la gare, entre la gare et la poste Rondelet.
Et c'est donc ce soir, samedi et dimanche, c'est ça ?
Ce soir 20h30, samedi 20h30 et dimanche à 17h. Simplement pour terminer une chose dont je n'avais pas terminé tout à l'heure, je me permets. J'en étais au lycée. Sachez quand même que le spectacle n'est plus... c'est une nouvelle version qu'on a fait ensuite pour le théâtre, de 1h10.
Avant, c'était 50 minutes.
Voilà, c'est ça, 45 minutes pour les élèves que je jouais dans les classes. Et là, on a fait une version pour le théâtre avec lumière, petite scénographie. Et donc, c'est un spectacle d'1h10, évidemment, pour tout public. Je ne le joue plus dans les... Enfin, je le joue encore dans les classes, d'ailleurs.
Bien sûr.
Mais aussi au théâtre.
Mais merci, Nicolas, de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau. On va se quitter. J'ai choisi de prendre un enregistrement de 1931 comme pause musicale, un extrait de l'opéra de Katsu dirigé par Otto Klemperer, donc 1931, contemporain à l'auteur dont on parle. Et oui, Divergence FM, le 93.9. Vous êtes bien sur Vendredi Théâtre, l'émission de théâtre tous les vendredis de 12h30 à 13h30. Alors l'enregistrement que l'on vient d'entendre, qui gratouillait un tout petit peu, il est de 1931. Ça doit être l'un des tout premiers enregistrements de l'opéra de Katsu. C'était avec le grand Otto Klemperer à la baguette et il s'agissait de The Berlin State Opera Orchestra. Un enregistrement de 1931, donc assez émouvant. Un deuxième plateau tout de suite sur des chapeaux de roue, nous allons parler du théâtre Pierre Tabar. Le théâtre Pierre Tabar a changé de direction et j'ai le plaisir de recevoir Damian Goudet. Bonjour.
Bonjour Florent.
Alors c'est vous qui maintenant présidez aux destinées du théâtre Pierre Tabar.
Mais absolument.
Puisque notre ami qui dirigeait est parti sous d'autres cieux, et donc vous avez repris la direction.
Voilà, avec une grande et belle équipe, et notamment la compagnie Jeux par hasard.
Qu'on va recevoir en troisième plateau tout à l'heure, pour une pièce Les Caprices de Marianne. Alors, le programme, il est immense. Est immense, et je vous disais, quand on s'est vu pour la présentation de saison, même avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas tout voir. Il y a beaucoup, beaucoup de choses.
Il y a énormément de choses et l'idée, c'est de faire un théâtre pour tous, mais surtout des théâtres pour chacun. Donc, il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime moins. L'idée étant de privilégier la qualité, mais surtout de faire des choses pour tous les publics. Les publics adultes, les publics enfants et les gens qui aiment les comédies, les gens qui aiment les classiques, les gens qui aiment les choses contemporaines. Et puis surtout, on espère que les spectateurs qui aiment plus tel ou tel type de théâtre, du coup, vont s'ouvrir à d'autres choses qui leur sont proposées au Théâtre Tabar.
Alors le théâtre Pierre Tabar a ses habitués, il y a des gens que... Moi je vais très souvent au théâtre Pierre Tabar, on se voit très souvent, donc il y a des gens que l'on revoit aussi suivant les représentations.
Oui, l'ancien directeur Marc Chawat avait quand même développé un esprit du lieu que l'on continue, que l'on développe, que l'on étoffe. Il y avait quand même un vecteur porté sur les pièces à vocation historique, à vocation un petit peu de témoignage. On a cette année travaillé la programmation adulte avec des thèmes, des thématiques. Donc on a une thématique qui s'appelle Propos politiques et traversées historiques.
Alors il y a quoi dans cette thématique? Vous avez des exemples de pièces de...
Oui, on a des pièces assez contemporaines comme Uburoi, par exemple.
Mm-hmm.
Ou Le neveu d'Amérique de Luis Sepúlveda.
Ah, qui a l'air extraordinaire. J'ai vu l'extrait pour la... Le comédien était là pour la présentation de saison. Il nous a donné un extrait tout à fait alléchant.
Tout à fait, oui. On aura au mois de janvier West d'après À l'Ouest, rien de nouveau, par exemple.
Très beau texte, Éric Maria Remarque.
Voilà, enfin bon, donc beaucoup de choses, hein, je ne vais pas tous vous les citer. On a près de 50 pièces rien que dans la programmation adulte, si je puis dire.
C'est assez impressionnant, voilà. Et 50 avec, pièces.
Voilà, avec d'autres thématiques, donc identité et société, parcours contemporain, des auteurs classiques, des comédies, un petit peu de théâtre musical. Mmh. Et une thématique qu'on a appelée à la découverte de, avec une soirée unique qui propose une pièce suivie d'une rencontre avec le public autour d'un événement à chaque fois très différent, comme par exemple le 11 novembre avec Baudelaire, suivi d'une dégustation d'absinthe.
Je viendrai. Le Baudelaire, c'est une reprise.
Il est venu.
On l'avait reçu la dernière saison. Voilà. C'est un spectacle tout à fait passionnant. Il y a eu aussi en reprise Louise Michel,
qu'on a fait suivre d'une invitation à chanter ensemble Les Chants de la Commune. C'était une très belle soirée. Et donc, à chaque fois, c'est une proposition toujours très différente de rencontre avec le public, de partage, qui permet d'aborder le théâtre autrement.
Alors, 50 pièces au programme. Comment ça s'est passé, cette programmation? Et comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir 50 pièces comme ça? Parce que c'est assez hallucinant, c'est très peu courant d'avoir dans une programmation 50 pièces comme ça.
C'est vrai qu'on a voulu faire de ce théâtre une utopie vivante. Une programmation très dense, très riche. J'aime... évidemment faire de la programmation, sinon j'aurais prévu quelques spectacles entre les miens et ceux de la compagnie en résidence, mais l'idée étant d'ouvrir et de créer quelque chose d'un petit peu cohérent autour des thématiques. Et donc il a fallu chercher. Bon, il y a des pièces que j'avais vues déjà depuis plusieurs années auxquelles je tenais beaucoup. Dès qu'on a su que j'allais reprendre ce théâtre, il y a beaucoup de dossiers qui me sont arrivés. Mmh. Donc, j'ai pu regarder beaucoup, beaucoup de choses plutôt sur vidéo ou sur dossier, puisque ça s'est fait quand même assez rapidement.
Oui, vous avez eu combien de temps pour monter la saison ?
Trois mois, à peu près. Oui, c'est vrai. Alors bon, bien sûr, il y a donc des spectacles que je n'ai pas vus et que j'ai senti par rapport au dossier, par rapport à un petit extrait. Voilà. Donc.
Alors, on n'a pas précisé. Donc, vous dirigez le théâtre, mais vous êtes par ailleurs aussi metteur en scène.
Tout à fait.
Et auteur.
Aussi, oui.
Parce que j'avais vu une pièce dirigée par vous l'année dernière, c'était La mort de Don Juan, qu'on avait reçue ici aussi,
qui est
une merveille.
Merci.
Au niveau du texte, c'est une merveille.
Merci. Alors on l'accueillera également en soirée unique, puisqu'elle s'est déjà donnée l'an dernier, donc on la reprend une soirée. Ce sera suivi d'une discussion avec un psychanalyste autour du thème de Don Juan, donc ce sera tout à fait passionnant.
On n'a pas parlé du reste de l'équipe, vous n'êtes pas toute seule pour faire une programmation pareille.
Heureusement non, j'ai été un petit peu secondée donc, par André Moutot qui déjà appartenait à l'équipe de Marc Chawat et qui l'aidait à la programmation. Donc il va tous les ans en Avignon aussi voir des pièces et donc il en a sélectionné quelques-unes. Et puis Annie Girard, qui n'a pas programmé dans la saison adulte, mais qui a proposé des festivals, donc notamment le Printemps Occitan.
Alors, il y a combien de festivals, en plus de la programmation ?
Alors, en plus de la programmation, nous avons une dizaine de festivals. Donc, on a commencé l'année avec un festival du théâtre amateur en partenariat avec la FNCTA. On était ravis de ce partenariat. On entre dès demain dans Festimôme, donc un festival déjà bien connu au Théâtre Tabar. On aura le festival de Vaudeville, donc organisé par Annie Girard en mois de janvier. Un festival de contes, le Printemps des Poètes bien sûr, le Printemps Occitan. Un festival jeunes talents pour les jeunes troupes. Un festival qui me tient beaucoup à cœur qui s'appelle Midi Minuit Marathon Théâtre. Alors là, c'est une proposition, 6 pièces dans la journée, le samedi et le dimanche. Une invitation à vivre une journée exceptionnelle de théâtre, à partager avec des amis et puis aussi avec des gens qu'on ne connaît pas. Parce qu'à la fin de la journée, je pense qu'on les connaît quand on a vécu 6 pièces d'affilée ensemble.
Et c'est un festival donc de midi à minuit, théâtre non-stop.
Exactement. On aura un festival des écoles, un festival d'humour, une semaine des chorales. Un plateau ado, donc là aussi c'est quelque chose qui me tient à cœur, les inscriptions sont encore ouvertes. On offre le plateau à des ados, donc moins de 18 ans, qui ont une pratique artistique hors temps scolaire, aussi bien un groupe de rock dans le garage des parents que quelqu'un qui fait de la danse depuis 4 ans, 5 ans et qui a envie de monter sur scène et de faire une proposition. Voilà, et ça on y tient, d'offrir un plateau professionnel à des ados qui n'ont pas cette occasion. Là. Et puis enfin, en juillet, Pitchoun en scène, donc ça, ce sera pour les tout-petits.
On n'a pas parlé justement de la programmation pour les programmations jeunesse, jeune public, comme on dit maintenant.
Voilà, alors...
Parce que ça, c'est un autre volet. Il y a combien de pièces dans le côté jeune public ? Parce qu'on a 50,
voilà.
50 spectacles pour les grands, et pour les petits, il y a aussi pas mal de choses.
6 ou 27 pièces également, ça commence dès 6 mois. On a 4 ou 5 pièces pour les enfants dès 6 mois. Et puis après, on a à partir de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, enfin, à chaque fois c'est précisé sur le programme. Et bien sûr, beaucoup de ces pièces sont aussi pour les adultes.
Oui, bien sûr. Ce qui caractérise un bon spectacle pour enfants, c'est que les adultes peuvent y prendre plaisir aussi.
Et je pense en particulier à Pélagia, que je suis en train de remettre en scène. En fait, c'est une pièce que j'avais déjà montée, un conte que j'ai adapté pour la scène et qui a déjà été joué à la fois pour les enfants dès l'âge de 5 ans, ainsi que pour des publics exclusivement adultes, et notamment, je pense, à des représentations qu'on a faites en prison. Donc c'est un spectacle, un conte qui parle à tous les niveaux. Donc c'est un peu l'objectif des spectacles enfants, donc la plupart sont vraiment pour tous les âges. Et un dernier volet aussi de la programmation que je...
Je suis sans voix tellement je suis interloqué par la programmation.
J'espère surtout que les gens vont venir adhérer, apprécier.
Mais les premiers spectacles que j'ai vus sont tout à fait intéressants. J'ai vu 2 ou 3 spectacles depuis le début de la rentrée qu'on a reçus ici et qui me semblent tout à fait intéressants. Donc ouais. J'ai confiance.
Merci. Et donc on a aussi donc tous les mardis de l'humour. Donc c'est hors programmation adulte, mais c'est pour les adultes évidemment. Mais c'est plus spécifique là, comme
plus café théâtre.
Plus voilà, café théâtre ou théâtre d'humour avec des duos d'impro et des pièces vraiment, vraiment, vraiment écriture contemporaine humoristique.
C'est pas trop ma tasse de thé, moi tout ça, mais
moi non plus. Mais l'important, c'est des choses qui plaisent aussi à beaucoup de gens à qui j'espère faire découvrir en plus de l'humour des tas d'autres choses bien justement. Sûr. Quelques soirées spéciales comme la Saint-Sylvestre ou la Saint-Valentin ou un petit goûter déguisé pour Mardi Gras pour les enfants avec des contes, une surprise pour la journée de la femme, la fête de la musique. Voilà, bon, ça c'est des soirées un peu particulières. Et une autre chose à laquelle je tiens beaucoup, ce sont les cafés-concerts que nous proposons à peu près une fois par mois avec des choses très éclectiques comme aussi bien de la salsa, du rock, du gospel, du chant soufi et danse d'Égypte, de la danse hip-hop. C'est des choses auxquelles on peut emmener les enfants. Mmh. Puisque c'est programmé le dimanche à 14h30.
Oui.
Et donc, c'est vraiment pour un public familial avec un café gourmand ou un goûter pour les enfants. Et puis, bon, c'est programmé également le lundi soir pour là, les férus de musique qui viennent vraiment, pas pour un moment en ma famille, mais pour déguster la musique. Et on aura également autre chose qui est intéressante pour tous. Ce sont des stages d'initiation à des arts de la scène. Donc on commence un premier stage le 10 et 11 novembre, c'est en week-end à chaque fois, sur le jeu d'acteur théâtre et cinéma. Puis on aura la comédia dell'arte, marionnette, de l'écriture théâtrale, du mime, du masque, du chant improvisé, du clown. Et puis enfin en juillet, un stage pour les enfants. Et c'est ouvert donc les stages adultes aux comédiens, mais aussi aux adultes qui n'ont pas forcément fait du théâtre.
Aux néophytes.
Voilà.
On l'aura compris, il se passe toujours quelque chose au théâtre Pierre Tabard, parce que des fois, il y a des spectacles l'après-midi, après, il y a deux spectacles, un spectacle à 19h, un spectacle à 21h, plus tous les festivals, plus toutes les activités annexes. Comment vous faites?
Mais on a une grande équipe avec la compagnie Jeux par hasard que vous allez recevoir tout à l'heure. Et donc, je leur laisserai le soin de parler des arvénements, qui sont aussi des choses qu'ils proposent. Je vais juste les citer parce que ce serait vraiment injuste de ne pas le faire. Il y a les apéro-lectures le mardi soir à 19h, les goûters-contes une fois par mois le samedi après-midi, quelques fois dans l'année le samedi soir le bazar à tabard. Alors ça, c'est une sorte de zapping théâtral. Le arboratoire. Théâtre participatif expérimental. Donc ça, c'est le vendredi, quelques fois dans l'année, le vendredi soir. Et enfin, le Cinézard court. C'est certains jeudis de l'année, à 19h, des projections de courts-métrages sélectionnés et présentés avec humour et belle animation par la compagnie Jeux par hasard.
Et comment vous avez choisi cette compagnie? Vous l'avez connue comment? Parce que je suppose qu'il y a plein de compagnies qui aimeraient bien être en résidence à Pierre Tabard. Et votre choix s'est-il effectué?
On s'est rencontrés, comme se font les rencontres, par hasard. Mmh. Et c'était au Festival d'Avignon, autour d'une lecture au Théâtre de l'Adresse. Et donc, on a décidé de garder contact. En fait, c'était la lecture de La mort de Don Juan, donc la pièce que j'ai écrite. Mmh. Et les membres de cette compagnie qui étaient là ont beaucoup aimé. Donc, ça favorise évidemment les liens. Et puis après, j'ai lu moi-même une pièce de Julien Useglio, qui est donc un jeune de cette compagnie et qui écrit très, très bien. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Donc, du coup, on a discuté. Et puis, quand j'ai vu que c'était une compagnie très sérieuse, toute une promo sortie du conservatoire qui a vraiment...
une sacrée énergie.
Une sacrée énergie. Et puis, ils sont très fédérés. Et bon, voilà, j'ai senti que on était vraiment sur la même longueur d'onde au niveau théâtral et puis au niveau humain aussi, ce qui est très important.
On n'a pas parlé des tarifs. Combien ça coûte pour aller au théâtre Pierre Tabard? Est-ce qu'il y a des abonnements? Est-ce qu'il y a une fois qu'on a vu 10 spectacles ou je ne sais pas?
Oui, alors ça se passe? On a un tout petit peu baissé les tarifs par rapport à l'an passé. Mais surtout, on a effectivement des abonnements avec une carte 5 spectacles pour 60 euros. Un abonnement 10 spectacles nominatifs pour 100 euros. Pour les enfants, c'est absolument dérisoire. Vous avez 10 places enfants pour 35 euros.
Oui.
Donc là, c'est, on ne peut pas ne pas y aller. Voilà. les abonnements festival, 30 euros pour une entrée libre tout le festival. Pour les enfants, j'ajoute que la nouveauté cette année, c'est que votre troisième enfant est invité systématiquement. Vous venez avec vos trois enfants, le troisième est systématiquement invité. Même si c'est un copain de votre fils, d'ailleurs.
Pas nécessaire d'avoir trois enfants.
Voilà, tout à fait. Parce qu'on sait que c'est important que les enfants puissent accéder aussi au théâtre. On sait que ça coûte cher quand on en a beaucoup.
Mmh. Et puissent partager aussi entre eux.
Et voilà, exactement. Et puis les stages d'initiation découverte du week-end sont à 60 euros.
D'accord. Est-ce que vous avez déjà, la saison vient de commencer, est-ce que vous avez déjà un petit peu des retours du public? Comment ça se passe avec le public?
Ça se passe bien et ça se passe même, je dirais, d'autant mieux que, bah, qu'on a un accueil chaleureux avec le bar associatif qui permet de rester, de discuter.
Qui a été refait d'ailleurs.
Qui a été refait, puis surtout qui est animé par la compagnie en résidence, par Je par hasard. Donc c'est un espace tout de suite très convivial et on a plaisir à être là un petit peu avant, un petit peu après. Et du coup, on échange nous-mêmes plus avec le public et le public, les spectateurs entre eux aussi.
Mais c'est vrai qu'on a envie de rester après le spectacle, déjà pour boire un verre, et en même temps pour rencontrer les comédiens, parce que c'est très facile d'accès pour parler aux comédiens, alors que dans certains théâtres, c'est un peu compliqué. Là, ils sortent de la loge, ils sortent du spectacle et on peut discuter avec eux sur le spectacle, etc.
Voilà, c'est bien l'objectif.
Voilà, je vois que l'heure tourne, on va rappeler l'adresse de Pierre Tabar.
Alors, 17 rue Ferdinand Fabre, quartier Beaux-Arts, c'est à l'angle de la rue La Canale.
C'est un théâtre qui existe depuis pas mal de temps quand même.
Ce fut le centre culturel du Languedoc en 59, ça a commencé. Voilà, et puis après c'est devenu le théâtre La Canale, puis Pierre Tabar La Canale.
Bah écoutez, allez-y, renseignez-vous sur le programme. Vous avez un site, on n'a pas cité le site.
Voilà, donc avec les W, théâtrepierretabar.com.
C'est très facile à trouver avec Google, pas de problème. Moi-même, j'y arrive, donc c'est dire. Merci de nous avoir accompagnés pour ce deuxième plateau. De toute façon, on sera amené à se revoir, puisque nous sommes partenaires Divergence FM avec le théâtre Pierre Tabar.
Merci beaucoup.
On va se séparer avec une musique, un portugais. Ça s'appelle The Legendary Tigerman, et le titre, c'est Radio and TV Blues.
Than fucking MTV.
Et voilà, The Legendary Tigerman, c'est un groupe portugais que l'on vient d'entendre. Vous êtes toujours sur Divergence FM, le 93.9, l'émission Vendredi Théâtre, tous les vendredis, l'actualité théâtrale de 12h30 à 13h30 sur Divergence. Troisième plateau, on parlait donc de la programmation juste avant de Pierre Tabar. Et bien justement, on va recevoir la compagnie en résidence à Pierre Tabar. Il s'agit de Je pars hasard. L'ai-je bien prononcé ?
Parfaitement.
Voilà. Bah, je vais vous laisser vous présenter, puisque nous allons parler du spectacle que vous montez, que vous jouez, Les Caprices de Marianne. Alors, présentez-vous les uns et les autres.
Alors, je suis François Di Carlo, et je joue Octave dans Les Caprices de Marianne.
Et je m'appelle Jess Avril, où je joue Marianne dans Les Caprices de Marianne.
Et moi, c'est Louise Boulenois, et j'ai fait la mise en scène des Caprices de Marianne.
Alors, donc, vous êtes une jeune compagnie. On va commencer par parler de la compagnie, de votre histoire, les uns et les autres. Donc, vous êtes sorti du conservatoire il y a 2 ans, c'est cela ?
L'année dernière, c'est ça, fin d'année 2011.
2011, c'est tout récent, c'est encore. Donc, il s'agissait du conservatoire d'art dramatique de Montpellier.
Voilà. On est en section initiation et on a tenté le concours professionnel. Donc il y en a 2 sur 20 qui ont été pris et ceux qui n'ont pas été pris, on s'est rassemblés en association et en compagnie du coup plus tard.
Et comment ça s'est passé ? Vous avez décidé, vous êtes combien d'abord dans la compagnie ?
On est 15 actifs, pratiquement à temps plein,
hein, à fond,
en bénévole. et après on est une vingtaine dans l'association et même un peu plus avec des membres qui se rapprochent ou qui s'éloignent, enfin qui font leur vie.
Alors moi je vous avais vu l'année dernière dans un spectacle tiré de Baricot, est-ce que je me trompe, c'était au Carré Rondelet.
Ouais.
Comment ça s'est passé déjà ? Quelles sont vos histoires avant d'arriver à Pierre Tabar ?
Déjà, on a été à Pierre Tabar toute l'année dernière.
Mm-hmm.
Même si ça s'est pas vu, mais on était là en début d'année surtout. Puis après, on a eu un peu de difficulté avec la direction. Du coup, on s'est éloigné un petit peu du théâtre et on a fait notre vie à Montpellier. On s'est développé, nous. Et puis là,
l'ancienne direction.
Voilà, l'ancienne direction avec Marc Chawat. Et là... du coup, il nous a donné cette occasion de pouvoir faire vivre ce théâtre pendant un an avec Damien Goudet. Et du coup, on a sauté sur l'occasion parce que ça nous fait, nous, une formation incroyable parce qu'on a plus, du coup, on a arrêté nos études. Et du coup, ça nous donne, on voit ça comme un stage de 10 mois dans un théâtre, apprendre à travailler nous, entre nous, à apprendre à travailler avec le réseau de Montpellier au niveau culturel et au niveau d'action sociale aussi, parce que l'association a ce but-là aussi.
Alors, Les Caprices de Marianne, c'est une reprise, puisque vous aviez déjà monté le spectacle l'année dernière.
C'est ça.
Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à monter un Musset et donc un classique ? C'est pas forcément le plus simple.
Je vais laisser Louise répondre.
En fait, c'est un hasard total, mais vraiment total. En fait, l'année dernière, Marc Chawat nous a appelé un jour en panique en nous disant la compagnie qui devait jouer Les Caprices de Marianne ne peut plus le faire. Du coup, est-ce que vous pourriez le faire, s'il vous plaît ?
un challenge.
Oui, complètement. 1 mois et demi pour monter un Musset, on s'est dit, bon ouais, pourquoi pas, bien sûr. Du coup, on a dit banco et on a fait ça très rapidement. Et en 1 mois et demi, c'était fait, c'était monté.
J'ai vu le spectacle donc avant-hier. C'est quand même bien rodé maintenant.
Maintenant, oui.
C'est bien rodé, c'est bien millimétré. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de fougue d'ailleurs et d'enthousiasme, on le sent.
J'espère.
On a eu un réel plaisir à monter ce spectacle.
Et il y a une langue aussi. Une langue qui n'est pas forcément évidente.
C'est ça qui était pas mal. C'était là qui était le vrai défi, en fait. C'était de réussir à faire en sorte que ça se comprenne encore maintenant et qu'on entende ce texte qui est un peu particulier maintenant. Enfin, c'est difficile.
Qui est très beau.
Oui, qui est très, très beau. Très beau.
Est-ce que vous avez fait des coupes ou est-ce que vous avez gardé l'intégrale ?
J'ai fait des coupes.
Ah, il me semblait bien.
Oui, j'ai même pas tellement fait de coupe, j'ai enlevé des personnages, carrément. Moi, je...
Parce que, oui.
J'y vais, quoi. Non, ouais, j'ai enlevé des personnages parce que du coup, c'était pour 4 personnes. Pour 4 personnages, du coup, il fallait trouver un moyen
Parlez bien
de...
dans le micro.
Il fallait trouver un moyen de faire... Mais je peux pas vous regarder après.
Ah, mais si. C'est un truc à prendre.
Ah, ouais, c'est ça, c'est compliqué. Donc un moyen pour que ça aille, ouais, que ça aille plus vite et qu'il n'y ait vraiment que 4 personnages sur scène. Du coup, j'ai viré des serviteurs, des messagers, des... La maman est un manteau, le valet est une chaussette. Enfin, on a trouvé des moyens, quoi.
Et quelqu'un peut nous résumer un petit peu l'histoire ? Parce que c'est, ça commence comme une comédie et ça finit en drame.
Oui.
Qui veut, Jess, qui veut s'y lancer ?
Allez, alors dans la Naples romantique, Célio est amoureux de Marianne. Et 2 mois d'assiduité constante, comme le dit Musset, elle ne répond pas et elle n'est pas du tout intéressée. Du coup, Célio va envoyer un messager, Octave, pour plaider l'amour de Célio. Le problème, c'est que Marianne est dévote et mariée à Claudio.
Et mariée,
évidemment. Et peu à peu, Marianne va tomber amoureuse du messager Octave et non de Célio.
Et Octave, c'est un sacré pistolet aussi, parce que c'est quand même le libertin de l'histoire. Il est tout le temps en train de boire, de déconner aussi.
Exactement. D'ailleurs, ce que Célio n'est pas du tout.
Oui,
voilà.
C'est l'inverse.
C'est complètement les deux caractères complètement aux antipodes. Donc, voilà.
Donc les 4 personnages, nous avons donc Célio, nous avons le mari, nous avons Octave et Marianne.
Et Marianne.
Voilà.
Et puis Tibia. Et,
évidemment, après, oui, il y a d'autres personnages. Il y a Tibia, le valet de Claudio, qui est la partie noire de Claudio. Mm-hmm. Après, nous avons évidemment la maman, qui joue un annonciateur, en fait.
Qu'on entend en voix off.
Voilà. Absolument, qu'on entend en voix off, qui est le manteau. Voilà, et puis après, nous avons des garçons, des valets, des choses comme ça qui ont
des
été supprimées. Des spadassins, absolument.
Ils sont importants.
Des spadassins.
C'est vrai qu'on a un carnaval, on a de la figuration aussi. C'est vrai qu'ils sont 4, mais on a une grosse partie de figuration, surtout le début et la fin de la pièce. Du coup, on a demandé aux copains de venir gentiment.
Parce que le spectacle commence directement dans le hall avec un carnaval du coup, qui fait connaissance avec le public. Et moi, j'arrive un petit peu avant le début de la pièce aussi pour donner cette ambiance de fête et de Naples en plein carnaval.
Avec un accent italien.
Et si, toujours.
Alors la fois où j'y suis allé, donc c'était avant-hier, et la salle était bondée pratiquement avec des collégiens. Et quels sont les retours que vous avez avec les collégiens ?
Là c'était un peu particulier avant-hier parce qu'il y avait du public normal et les collégiens, alors que d'habitude on fait des scolaires tout simplement avec juste les collégiens. Du coup on a le temps de les voir après, de leur poser des questions et de pouvoir leur parler un peu et d'avoir une vraie rencontre avec eux. Et en général ils osent pas trop nous dire que c'était pourri, mais ils sont... Non, ça va, ils ont des bons... Ils sont
Normalement,
contents.
Normalement, les collégiens, ils sont nature, donc si c'est pourri, ils le disent. Hein.
Ouais, mais non, parce qu'en fait, en général, ils sont surpris, ils disent plutôt... leur retour, c'est plus... Putain, mais vous êtes jeunes, en fait. Mais c'est pas que les vieux, le théâtre. En fait, vous êtes sympas. Un peu un truc comme ça. Et en général, ils sont contents, du coup, parce qu'ils se sont pas trop fait chier, je crois.
Non, non, ça bouge, on s'ennuie pas du tout. Spectacle dure 1h30, c'est ça ?
Même pas. Oui, 1h20.
Ça passe vite.
Oui.
Je vais vous demander si ça serait possible d'avoir un petit extrait pour avoir une idée. En parlant bien devant le micro.
Je croyais qu'il en était du vin comme des femmes. Une femme n'est-elle pas aussi un vase précieux, scellé, comme ce flacon de cristal ? Ne renferme-t-elle pas une ivresse grossière ou divine, selon sa force et sa valeur ? Et n'y a-t-il pas parmi elles le vin du peuple et les larmes du Christ ? Quel misérable cœur est-ce donc que le vôtre pour que vos lèvres lui fassent la leçon ? Vous ne boiriez pas le vin que boit le peuple, vous aimez les femmes qu'il aime. L'esprit généreux et poétique de ce flacon doré, ces sucs merveilleux que la lave du Vésuve va cuver sous son ardent soleil, vous conduiront chancelant et sans force dans les bras d'une fille de joie. Vous rougiriez de boire un vin grossier. Votre gorge se soulèverait. Vos lèvres sont délicates, mais votre cœur s'enivre à bon marché. Bonsoir, cousin. Puisse Rosalinde rentrer ce soir chez elle.
Oh, 2 mots de grâce, belle Marianne. Et ma réponse sera courte. Combien de temps pensez-vous qu'il faille faire la cour à la bouteille que vous voyez pour obtenir ses faveurs ? Elle est, comme vous dites, toute pleine d'un esprit céleste. Et le vin du peuple lui ressemble aussi peu qu'un paysan ressemble à son seigneur. Cependant, regardez comme elle se laisse faire. Elle n'a reçu, j'imagine, aucune éducation. Elle n'a aucun principe. Et voyez comme elle est bonne fille. Un mot a suffi pour la faire sortir du couvent. Toute poudreuse encore, elle s'en est échappée pour me donner un quart d'heure d'oubli et mourir. Sa couronne virginale, empourprée de sirop dorante, est aussitôt tombée en poussière et, je ne puis vous le cacher, elle a failli passer tout entière sur mes lèvres dans la chaleur de son premier baiser.
Êtes-vous sûr qu'elle en vaut davantage ? Et si vous êtes un de ses vrais amants, n'iriez-vous pas, si la recette en était perdue, en chercher la dernière goutte jusque dans la bouche du volcan ?
Elle n'en vaut ni plus ni moins. Elle sait qu'elle est bonne à boire et qu'elle est faite pour être bue. Dieu n'en a pas caché la source au sommet d'un pic inabordable. Au fond d'une caverne profonde, il l'a suspendue en grappe dorée, au bord de nos chemins. Elle y fait le métier des courtisanes. Elle y effleure la main du passant. Elle y étale au rayon du soleil sa gorge rebondie. Et toute une cour d'abeilles et de frelons murmure autour d'elle, matin et soir. Le voyageur dévoré de soif peut se coucher sous ses rameaux verts. Jamais elle ne l'a laissé languir. Jamais elle ne lui a refusé les douces larmes dont son cœur est plein. Ah, Marianne, c'est un don fatal que la beauté, la sagesse dont elle se vante est sœur de l'avarice. Et il y a plus de miséricorde dans le ciel pour ses faiblesses que pour sa cruauté. Bonsoir, cousine. Puisse Célio vous oublier.
Merci, merci pour ce petit extrait. C'est vrai que c'est un exercice difficile, puisque c'est tout à fait différent de dire un texte devant le micro que de le déclamer sur scène.
Ouais, mais comme vous le disiez, nous on s'est régalés à apprendre ce texte. On a vraiment découvert un langage qui nous a plu, qui nous a vraiment, vraiment touchés. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on arrive à accrocher des jeunes avec ce texte-là. Mmh. C'est parce qu'on on a vu la beauté qu'il avait dans l'âge qu'il a. Et à côté de ça, il est tellement actuel et on parle de choses tellement simples et compréhensibles pour tout le monde que ça en est un régal, quoi.
C'est vrai qu'Octavio, je disais que c'est un sacré pistolet parce que c'est quand même un peu un ivrogne, c'est un libertin. Et moi, je reconnais un peu Musset à travers ce personnage parce que Musset lui-même, le vin, il pratiquait pas mal.
Ouais, je crois
que c'est un petit peu Musset qui parle là.
Autant que Célio, en fait, parce que je pense qu'il était autant torturé que peut l'être Célio.
Il avait ces deux aspects.
Autant libertin que peut l'être Octave. Au final, c'est un peu l'amour de Musset qu'on voit dans Octave et Célio, quoi.
Alors donc là, c'est les Caprices de Marianne, mais donc vous êtes en résidence à Pierre Tabar. Et qu'est-ce que vous nous préparez pour les semaines et les mois à venir à Pierre Tabar ? D'abord, qu'est-ce que c'est être en résidence dans un théâtre pour les auditeurs qui n'imaginent pas ce que c'est ?
Alors déjà, je pense qu'au niveau national, c'est une grande question de ce que c'est qu'une résidence.
C'est une excellente question.
Nous, on essaye d'y répondre à notre niveau et comment on veut investir ce lieu-là, comment on veut le faire vivre et comment on veut l'utiliser comme un point de départ pour notre action, en fait. Et... Donc déjà, c'est d'avoir un plateau avec des projecteurs, avec une régie avec laquelle on peut travailler et apprendre à travailler. Parce que là, c'est ce qui se passe. Du coup, nous, on a trois membres de l'association qui sont en CAE au théâtre, du coup, qui découvrent un vrai métier, régisseur, accueil du public, gestion des plannings et tout ça. Et à côté de ça, nous, on a le plaisir de monter des... Moi, je joue plus que ce que je ne fais que je ne travaille au théâtre, en fait. Mais du coup, j'ai ce plaisir-là de pouvoir jouer dans les pièces que Damien monte. Et nous, on a une latitude incroyable pour répéter aussi. C'est quand même plutôt pratique, quoi. Même si le plateau est quand même très rempli, on peut l'utiliser pour répéter, quoi.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. Parce que, vu le programme de Pierre Tabar, quand est-ce que vous trouvez le temps de répéter? Puisque il y a des spectacles l'après-midi, il y a deux spectacles le soir.
Oui, puis surtout
mais non, mais c'était une connerie. On peut jamais répéter là-bas.
Bien sûr que si. J'ai tiqué avec la directrice.
Ça va, on est tous.
Ceci ne nous regarde pas. Non, pardon. Alors, les projets. Est-ce qu'il y a d'autres créations que vous allez faire cette année?
Alors, nous, on a sept spectacles qui appartiennent à la compagnie, qui sont dans le programme
spectacles.
Pour adultes, et on a quatre spectacles pour enfants qui sont dans la saison enfants. C'est ça, hein?
C'est quoi les quatre spectacles pour enfants?
Non, trois spectacles. On a Miché Drat, Scènes et légendes du monde.
Et Pélagia, non?
Et Pélagia. Voilà. Et après, donc, la semaine prochaine, il y a la contrebasse, qui est mise en scène par Harry Grange, et c'est un monologue qui est joué par Quentin Gracias, qui est dans l'association aussi.
Et qui joue Claudio, dans Les Caprices de Marianne.
Voilà, c'est le même.
Qui joue le mari, donc le mari... Oui,
c'est ça.
Le mari méchant.
Le mari, voilà, le mari méchant. Pas sympa, vraiment.
Après, plus tard dans l'année, il y a Musical aussi qui arrive avant décembre.
En janvier.
C'est quoi Musical?
Musical, c'est une pièce de
Lagarce.
Avec
Lagarce.
Bien sûr.
C'est une des premières et du coup, c'est monté par Annette Roux et Marie-Lou Mélanie. Et c'est pareil, on est huit sur scène avec de la musique et des paillettes. beaucoup de paillettes. C'est vraiment venez
plein de,
nous voir.
Plein de pêches et super agréable, plein de couleurs. Ouais. Enfin, en toute objectivité.
Super pièce.
Et les autres spectacles
sur lequel on pourrait vraiment attirer l'attention, c'est Les Orphelins. C'est un texte écrit par Julien Ucelio. Damien en a parlé tout à l'heure, c'est l'auteur de l'association qui a écrit une pièce l'année dernière, En Cage, qu'on a joué au Trioletto et à l'Outil Théâtre. Et cette année, en juin, du coup, il y a sa seconde pièce qui s'appelle Les Orphelins, où on est quatre à jouer. Et c'est un espèce de conte magique et un peu philosophique
et, ouais, révolutionnaire.
Et révolutionnaire, toujours.
C'est plus ça important. Qui est important. Et sinon, il y a Le Silence de Nathalie Sarraute aussi, mais qui fait que deux représentations, Espèce menacée, un vaudeville.
C'est un vaudeville de qui, ça?
Ray Cooney. Kumi, c'est un anglais. Ray.
Ah, je ne connais pas du tout.
Et du coup, ça s'intègre dans une découverte du vaudeville aussi, avec Jean-Pierre Albe, le propriétaire du théâtre, qui va venir faire une intervention sur qu'est-ce que c'est que le vaudeville. Et
ah, Jean-Pierre Albe, c'est celui qui tient la librairie de théâtre de l'université, que je connais bien.
Voilà, très sympathique. Bah, c'est le propriétaire du théâtre qui nous file un grand coup de main au niveau financier quand même, il faut le souligner.
Merci. Merci Jean-Pierre.
Les spectacles pour enfants, on n'a pas dit grand-chose encore sur ce que vous allez préparer.
Alors en ce moment, on joue un spectacle de contes, c'est plusieurs contes du monde entier, et du coup rassemblés dans un seul spectacle d'une heure, un peu moins, à partir de 3 ans, qui s'appelle Scènes et légendes du monde, qui est mis en scène par Damian. Mm-hmm. Et y a Pélagia, mais ça c'est avec la compagnie de Damian, et nous on a un spectacle pour enfants qui s'appelle Mich et Drat, où c'est 5 clowns, on peut rassembler ça là-dessous. Et qui vont se poser des questions essentielles sur la mort, la conscience, la propriété, sur des petites scènes de 10 répliques maximum, et qui vont tout de suite questionner, même pour nous, des choses qu'on a laissées tranquilles depuis un moment, quoi.
En dehors de tous ces spectacles, il y a aussi des événements ponctuels, comme me disait Damian. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur ces événements ponctuels que vous animez tout au long de l'année?
Alors, je vais commencer par celui qui a le plus de succès. Vous me dites si je parle trop.
Non, bah vas-y, écoute.
Celui qui a le plus de succès, là, c'est le Ciné-Zarcourt. Donc, tous nos arvénements, c'est des arvénements, en fait, parce que c'est la compagnie Jeux par hasard. On a cette maladie de mettre des arts partout dans ce qu'on peut dire.
Ou des aides, c'est insupportable.
Donc, du coup, le Ciné-Zarcourt, c'est une projection de court-métrage de jeunes metteurs en scène qui ont un peu de mal à diffuser leurs travaux. Et du coup, on leur propose le plateau avec un écran blanc et du public. Donc là, ça fonctionne assez bien. Il y a eu pas mal de monde à la première présentation.
Et beaucoup de résa sur les suivantes.
Ensuite, il y a le Goûter Conte Hasard, qui est pour les enfants, en fait. Donc c'est un conte avec des crêpes ou des gaufres.
Des cookies.
Et des contes. Du coup, avec un conteur qui dort dans le théâtre depuis toujours et qu'il faut réveiller avec une petite comptine, qui se promène toujours avec des dizaines d'oreillers.
Tu peux pas faire la comptine? Allez, vas-y.
Non, je m'en souviens plus.
Raté.
Ensuite, il y a l'apéro, le Zarpéro lecture, du coup. Là, c'est pour les adultes, mais du coup, c'est une lecture accompagnée d'un verre de vin et d'une tapenade ou de quelque chose à grignoter.
Tomate, confit maison, tomate. Extraordinaire.
Tout est maison.
Que j'ai goûté d'ailleurs.
Et préparé avec amour.
Bon. Superbe.
Ensuite, il y a le Zarboratoire qui arrive bientôt. Là.
Ah, c'est quoi ça?
Donc, ça, c'est du coup, c'est une recherche avec le public. Le public devient la matière Z.
Encore. Encore Z.
Il y a des Z partout.
Voilà, c'est vraiment. Ça. Du coup, et qui devient un cobaye, en fait, à la merci des professeurs qui sont sur scène, les arborantins, qui vont tester des choses. Donc, le thème prochain du Zarboratoire, c'est jusqu'où peut-on aller avec la matière Z. Donc, ça va être des expériences plus ou moins absurdes, en lien avec un peu avec la pataphysique. Mais à côté de ça, ça permet toujours de se poser des questions, de se dire, mais alors, pourquoi j'ai au théâtre? Qu'est-ce que je suis comme public? À quoi je sers? Quelle force j'ai? Qu'est-ce que je reçois? Qu'est-ce que je ne reçois pas? Est-ce que je peux retenir ma respiration pendant plus de 10 minutes? On se pose des questions un peu absurdes, mais ça promet d'être une soirée très amusante, quoi. Et après, oui, on essaye d'être... De chercher ce qui n'a pas été fait encore, on prend des risques. Donc ça, c'était le Zarboratoire. Ensuite, il y a le Bazar à Tabar. Donc ça, c'est l'occasion pour n'importe qui maîtrise un tant soit peu un talent quelconque. Peinture, slam, chant, graphe, petite voiture dans une baignoire, n'importe quoi. Qui a envie de monter sur scène, on met à disposition 5 à 15 minutes de plateau pour n'importe qui et faire un déroulé de plein de formes qui n'ont pas spécialement de choses à voir ensemble, des petites scènes montées par nous, un morceau proposé par quelqu'un d'autre, et ça pendant une heure, du coup, toujours avec à la fin un pot et pour pouvoir discuter et prendre le temps de parler de ce qui se passe autour de nous.
Je suppose que vous devez être sollicité pour ça.
Ouais, bah c'est l'occasion aussi de ramener des gens, parce que nous, on a un vrai désir d'ouvrir notre association aussi et de la proposer au maximum de jeunes, ne serait-ce que dans le plaisir de pouvoir s'engager quelque part dans une association, dans des actions, parce qu'on mène des actions d'animation et on va jouer dans les prisons, on va jouer pour des centres aérés dans des châteaux en ruine. On essaye de sortir un petit peu du spectateur sur un fauteuil et du plateau plongé dans le noir. Moi, j'étais animateur et éducateur spécialisé avant d'être comédien. Mmh. Et du coup, j'ai apporté ma graine un petit peu. Je leur ai fait découvrir l'animation. Et c'est vrai qu'on essaye de ramener le plus de gens et d'essayer de créer une émulation. Et c'est ça, la création et l'imaginaire. On va pouvoir...
Mais je vois que l'heure tourne. On va rappeler donc que Les Caprices de Marianne, ça se joue au théâtre Pierre Tabar.
Jusqu'à dimanche.
Est-ce que vous avez les horaires?
Donc ce soir, c'est à 19h.
C'est toute la semaine à 19h. Voilà.
C'est toute la semaine à
19h. Jusqu'à dimanche, c'est 19h.
Voilà. Dimanche, c'est 19h.
Dimanche, c'est 19h.
Je me suis trompée.
Merci de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau de la journée de Vendredi Théâtre. On va se quitter avec un morceau, un extrait des 4 saisons de Vivaldi. Ceci pour faire plaisir à notre directeur, Christian Coste, qui adore ce morceau. Très bonne semaine théâtrale à tous et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir.
Merci.
Au revoir. Au revoir.
Mesdames, messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire.
Et merci à Florent Robin, qui était tout seul aujourd'hui pour ce Vendredi Théâtre, une émission à retrouver à partir de 17h30 en rediffusion, une émission où notre cher président recevait Nicolas Pichot pour parler de la pièce Jeunesse sans Dieu, Damien Goudet pour présenter la saison du théâtre Pierre Tabar et la compagnie Je par hasard, résidente au théâtre Pierre Tabar, qui présente la pièce qui se joue ce soir, demain et dimanche et toute la semaine, je crois même, intitulée Les Caprices de Marianne de Musset. En attendant, c'est James Brown Funky People, il est 13h30 sur Divergence FM, je vous retrouve juste après.
To me, happiness is Fred Wesley playing his horn.